articulation des religions entre elles, articulation la foi chrétienne et la laïcité. Pour moi, ça correspond à des titres. Alors, sans faire, évidemment, ce n'est pas le sujet de ce soir, à une longue explication, mais dire un peu des choses là-dessus.
Je les prends dans l'ordre où elles sont venues. Compromis et compromission, vous dites, est-ce que j'aurais un exemple concret? Alors, en vous écoutant, j'ai vu Nelson Mandela dans mes yeux, tout de suite, immédiatement. A Long Way to Freedom. Et puis les films sur lui que vous connaissez sans doute et qui sont magnifiques, mais qui sont fidèles pour l'essentiel à la vie magnifique, exemplaire de Nelson Mandela. Mais quand je dis que la vie de Nelson Mandela, et c'est pas tellement un exemple chrétien, même si les convictions religieuses de Mandela sont pas très connues ni très essentielles à ses yeux, semble-t-il. C'est pas un penseur religieux. Il connaît la religion, il a des idées, mais c'est pas son principal combat. Mais lui, c'est justement sur son cheminement, son passage de la révolution armée, qui lui vaut sa condamnation quand même, à la démocratie pacifiée, à l'éthique de la discussion et à la démocratie sans violence de l'après apartheid, est tout à fait remarquable parce que chez Mandela, il n'y a pas de renonciation à la recherche de la vérité, et la lutte pour le pouvoir et la lutte pour la justice vont de pair. D'une certaine manière, il fait pas de compromission, parce qu'il ne transige pas sur ses certitudes, il reste profondément lui-même, aussi bien ce qu'il nous restitue de ce qu'il a vécu en prison pendant ses 27 ans ou à peu près, emprisonnement dans à Robben Island et puis ensuite à Paul Mort. Et puis, j'ai visité deux fois l'Afrique du Sud pour écrire mon livre sur le football, mais je suis passionné aussi par l'Afrique du Sud. Ma femme a vécu 16 ans à Lubumbashi et on a beaucoup de discussions là-dessus. Lubumbashi, c'est pas en Afrique du Sud, c'est au Congo, mais elle allait en vacances en Afrique du Sud, elle a vu l'apartheid arriver dans les bus quand elle était enfant. Et donc, il y a cette intransigeance doctrinale de Mandela qui reste un homme dur et sûr de lui, un vrai politique, jusqu'au bout, qui en même temps est un juriste, le premier juriste à avoir été accepté à l'université de Wits, au nord de Johannesburg, qui est une université réservée aux Blancs, et Mandela est le premier noir, sous l'apartheid, à être accepté comme étudiant à Wits, et il fait toute sa formation juridique parce qu'il vient du sud de l'Afrique du Sud où il a été élevé, c'est Fort Hare, c'est une ville très marquée par un aspect religieux, par l'influence britannique et par l'influence du méthodisme anglo-saxon. Donc il est très marqué par le protestantisme du point de vue de l'histoire des idées, en tout cas. Je ne sais pas du point de vue des croyances, je n'ai pas réussi à savoir ou à comprendre ce qu'il dit exactement. Je ne le connais pas assez bien. Donc il y a ça, et puis en même temps, et vous le voyez bien dans le film sur le match de rugby, vous avez,
Une Invictus,
merci. Oui. Vous voyez bien dans Invictus, qui est assez fidèle à l'histoire, et puis dans l'autre film, l'autre biographie de Mandela, qui a également été mise au cinéma, en même temps, il décide d'apprendre l'Afrikaans pour parler avec ses bourreaux. Et il fait un compromis. Il faut que ça change. Alors on sait en même temps, si on regarde le destin de l'Afrique du Sud et ce qui s'est passé après Mandela, après la présidence de Mandela, avec les présidents successifs et avec l'abominable Zuma, aujourd'hui, on voit bien que Mandela a globalement échoué dans ce qu'il voulait faire de l'Afrique du Sud. La suite, ce qui s'est passé déjà du vivant de Mandela et puis après sa mort, n'est pas une réussite par rapport à son idéal. Donc les Sud-Africains blancs et noirs qui se sont battus contre l'apartheid savent très bien que l'apartheid, et on le voit très bien quand on se promène dans les rues, à Pretoria en particulier, où j'ai vécu quelques semaines, seulement quelques semaines, On voit très bien que l'apartheid, il est encore dans la tête des écoliers de 15 ans. Blanc des écoliers blancs de 15 ans, il est encore dans les têtes. Il n'est pas éradiqué. Parce que les droits de l'homme sont un idéal, comme je disais tout à l'heure. Donc vous voyez, il fait des compromis. Le compromis, ce que je veux dire, c'est que le compromis ne mène pas. Malheureusement, je n'ai pas d'exemple. Je cherche des exemples, mais il n'y a probablement pas d'exemple de compromis qui débouche sur un plein succès. Et si on lit les textes de Paul Ricoeur et que j'avais le temps de vous commenter le texte de Ricoeur auquel je vous renvoie, pour une éthique du compromis, il montre ça très bien dans le détail et il donne des exemples que j'ai pas eu le temps d'analyser devant vous ce soir. Voilà, allez voir les questions que pose François Vaillant à Paul Ricoeur. Mais évidemment, dans l'histoire de la théologie proprement dite, l'éthique de Dietrich Bonhoeffer, l'éthique posthume de Dietrich Bonhoeffer, éditée par son ami Eberhard Belger, est tout à fait aussi un exemple de compromis. C'est-à-dire, c'est ce luthérien allemand élevé dans l'obéissance absolue au prince, un luthérien pur sucre qui est sous l'influence de Karl Barth notamment, mais pas seulement, à cause de ce qu'il voit sur les maltraitances des juifs, etc., et puis de ce qu'il voit de la perte de la démocratie allemande, décide de donner sa vie et d'entrer en conspiration contre Hitler, parce que c'est plus important que tout le reste. Mais il fait des compromis, il fait des compromissions avec ses propres idées, et certains lui ont reproché de faire que des compromissions et de ne jamais faire de compromis véritablement. Donc il était tout le temps sur le fil du rasoir. Bonhoeffer, il est sur le fil du rasoir, et entre la compromission et le compromis, c'est souvent le fil du rasoir. Et on peut basculer d'un côté ou de l'autre. La deuxième question, c'était sur
l'éthique de la discussion.
Sur l'éthique de la discussion, oui. Les autres caractéristiques que la non-violence par rapport à l'éthique de la discussion. Le problème de l'éthique de la discussion, peut-être que je ne l'ai pas dit assez clairement, c'est que l'éthique de la discussion, c'est une méthode plutôt qu'un contenu. Hein, c'est-à-dire, si elle est non-violente, c'est parce qu'elle suspend. Elle suspend le... J'ai interrogé par l'une d'entre vous sur mon livre sur le football. Dans le football, c'est la même chose. La présence de l'arbitre, avec ou sans le VAR, la vidéo assistance, l'existence de l'arbitre et des règles du football suspend la violence naturelle qui oppose normalement deux joueurs de football ou deux gamins dans les préaux d'école qui ont envie de se taper sur la figure. Parce que les gens normaux, ils tapent sur la figure. Ce ne sont pas des anges. Le football est une éducation contre la violence. Et le football est un sport fondamentalement non violent. C'est ce que je défends dans mon livre. Contre tous ceux qui disent que le football est violent puisque les gens se tapent dessus. Mais non, les gens se tapent que sur le ballon. En principe. Il est interdit de taper sur la violence. Il est interdit. Mais c'est les droits de l'homme. Tu ne tueras pas. Si vous ne ririez pas si je disais tu ne tueras pas. Il faut abolir la règle, tu ne tueras pas. Il faut dire que tu peux tuer quand tu veux. Mais c'est pas parce qu'il y a des milliers de morts tous les jours sur cette planète qu'il faut dire que tu ne tueras pas est faux. Tu ne tueras pas est un commandement toujours plus vrai tous les jours. Dans notre monde faible, c'est ce qu'il est. Parce que nous sommes dans un monde de tuerie. Nous vivons dans un monde d'assassinat. Nous vivons dans un monde de violence. Et il faut des règles qui interdisent la violence. Mais ce n'est pas des règles magiques. La présence de l'arbitre n'empêche pas les gens de se taper dessus. Mais si vous supprimez l'arbitre, vous introduisez la violence. Et au lieu de critiquer l'arbitre, il faut critiquer ceux qui tapent. Donc l'éthique de la discussion, qui est aussi l'éthique des règles du football, c'est la même chose, suspend le fait qu'on érige l'adversaire en ennemi. Le joueur de football n'est pas mon ennemi. C'est mon adversaire. Non, mais c'est mon adversaire. J'ai envie de lui mettre une raclée. J'ai envie de le battre 10-0. J'ai envie de gagner. Le fait de la compétition n'est pas un mal en soi. Je vous renvoie aux travaux de Roger Caillois, et de ses magnifiques études sur la sociologie des jeux et des sports. Il y a de l'agone, il y a de l'agone dans le jeu. Dans le sport et dans le jeu, il y a de l'agone, il y a du combat, il y a de l'agonistique. Et ça nous aimons bien. Hein. Mais nous ne voulons pas voir les joueurs se taper sur la figure pendant les matchs, nous leur voulons leur mettre une raclée en leur marquant des buts. C'est pas sur le même plan. Parce que, attention, on n'aime pas le football, on n'aime pas le football. Et puis on peut dire que le rugby est un sport non violent, puis que la boxe est un sport non violent, donc ces règles prescrivent de ne pas taper en dessous de la ceinture. Mais franchement, la boxe est quand même un peu plus violente que le football, semble-t-il. Et il y a peut-être des amateurs de rugby parmi vous, mais vous ne me dites pas que le rugby est moins violent que le football. Ça ne tient pas la route. Les règles ne sont pas les mêmes. Mais il y a plus de violence dans le football parce que le football est un idéal plus inaccessible. C'est-à-dire un idéal de paix entre les adversaires. Il est inaccessible. Parce que c'est la réalité. Alors l'éthique de la discussion, elle fait cette... Je ne sais pas si je réponds à votre question, monsieur. L'éthique de la discussion, elle suspend l'inimitié. Elle suspend... D'ailleurs, il dit en allemand... Herrschaftsfrei. Il ne dit pas non violent, il dit Herrschaftsfrei. Libre de toute domination. Hein, libre de toute domination. Et alors c'est un idéal de discussion. C'est-à-dire, il dit, si vous voulez, si les êtres humains, ben, pensez à ce qui s'est passé en Suisse sur les plébiscites sur le Jura, sur les luttes qu'il y a eu tout près d'ici entre le Jura Nord et le Jura Sud. Mais je pense qu'il y a des exemples à Belfort et dans les environs, que je ne connais pas, que je ne domine pas. Et puis, penser à la Révolution française et à la Terreur, etc. etc. Donc les exemples historiques sont légion et de niveaux différents. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut trouver des moments de conciliation et où on abolit la violence pour réunir les gens autour de la table. On le voit bien aussi dans les discussions politiques, quand les syndicats montent à l'Elysée, puis ils vont discuter, etc. La différence entre ce qu'ils disent à la télévision et ce qu'ils disent tout seul avec le président. On voit bien que ce n'est pas le même discours. Alors, il y a la table, ou dans les accords, comme les accords de Grenelle, il y a la discussion autour de la table, et puis il y a le conflit social dans la rue. Hein, et tout le débat politique, aussi sur la rue, et le lieu où ont lieu les discussions, Autre que la rue, il n'y a pas que dans la rue qu'il y a des discussions, il n'y a même pas beaucoup de discussions dans la rue, et il faut des lieux à l'abri de la rue pour que la discussion ait lieu. Donc c'est ça que veut dire Habermas par l'éthique de la discussion, c'est un idéal très élevé, comme tout idéal, c'est un idéal très idéaliste, mais c'est pas là aussi je défends, c'est lié à l'idée de la vérité, c'est pas parce qu'un idéal est idéaliste qu'il faut y renoncer. Il est d'autant plus nécessaire que ce qu'il est souhaitable. Il faut dire qu'il soit ça. On souhaite. C'est comme les conciliations dans les couples, l'institution de la conciliation à la place du droit, ou bien le problème du divorce et de la conciliation dans le droit civil et dans le droit matrimonial, etc. Il y a des couples qui acceptent la discussion pour le bien des enfants, puis il y a d'autres qui n'acceptent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc il faut suspendre la violence, et la violence n'est pas que physique, elle peut aussi être psychique ou morale, bien entendu. Et puis la troisième question, j'arrive pas à me relire.
L'articulation entre les religions et l'articulation aussi avec la laïcité.
Ah oui, l'articulation. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question, je suis un peu fatigué.
Moi, j'ai vu ce que vous avez dit, je me suis dit pour moi c'est une thèse de chapitre et je ne voyais pas trop ce qu'il y avait derrière.
Ouais. Non mais vous avez raison que mes thèses, j'accepterai tout à fait la critique ou la remarque, que mes thèses étaient des thèses de chapitre et que je ne les ai pas traitées suffisamment de manière concrète et dans le détail. C'est une critique, si c'est une critique pour vous, je n'y verrai pas d'inconvénient à l'accepter. Et c'est vos questions qui m'obligent à essayer d'aller un peu... plus loin. Quand j'emploie le mot articulation, ça veut dire mettre ensemble, ça veut dire essayer de mettre deux choses ensemble. Par exemple, si on parle des religions, vous voyez, est-ce qu'on peut mettre autour d'une table, ça se fait dans certains groupes, je sais que certains parmi vous y sont impliqués d'une manière ou d'une autre, mettre autour d'une table 12 personnes musulmanes et 12 personnes chrétiennes, puis faire une... Alors, on me dit depuis des années dans le dialogue interreligieux qu'il ne faut pas parler de ce qui nous oppose, mais seulement de ce qui nous réunit. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'une vraie discussion entre les religions, c'est parler et de ce qui nous réunit et de ce qui nous oppose. Si je dis ce que j'ai dit sur le Christ tout à l'heure, ou que je vous dis ce que j'ai essayé de dire dans mon livre sur Dieu et Jésus, je suis dans le domaine de la théologie chrétienne, et je sais que j'utilise des termes que les chrétiens entre eux peuvent plus ou moins comprendre, et plus ou moins accepter, mais je sais pertinemment, même si j'ai lu quelques études dans ma jeunesse sur Jésus dans le Coran, que le Jésus du Coran n'est pas le même que le Jésus de tradition chrétienne. Que Mahomet a utilisé, a été influencé par les évangiles apocryphes, mais qui ne connaissait pas la Bible chrétienne. Alors ce n'est pas une critique de Mahomet, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... c'est pas du tout un anti-islamisme, pas du tout, c'est pas mon opinion. Mon opinion, c'est que si on fait un dialogue interreligieux, alors il faut prendre l'islam dans ce qu'il a de meilleur. Il faut prendre des partenaires qui sont, et je sais qu'il en existe, j'ai rencontré des musulmans sincères avec qui on peut discuter de leur foi religieuse et de la foi chrétienne, mais vous voyez bien que dès qu'on commence à le faire, on se heurte à des anathèmes. À certains anathèmes de l'un ou de l'autre, ou de l'un envers l'autre, et que c'est pas un voyage de plaisir, le dialogue entre le christianisme et l'islam. C'est compliqué. C'est compliqué, et c'est potentiellement explosif. Et c'est pas un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots par rapport au djihadisme et aux attentats. Je ne confonds pas les deux choses. Mais c'est explosif du point de vue intellectuel et du point de vue religieux, dans le sens qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas tout à fait, voire pas du tout, le même référentiel. Mais j'ai eu un prof d'Ancien Testament qui était pasteur à Nancy, peut-être le nom vous est connu de certains d'entre vous, qui s'appelait Robert Martin Achard. On l'aimait bien, on l'avait surnommé Robert Machin en retard, parce qu'il arrivait toujours en retard dans ses cours, mais il a écrit un très beau livre, qui doit être épuisé chez Dachau et Nestlé, sur les enfants d'Abraham. Il a essayé de montrer comment le christianisme, le judaïsme et l'islam sont tous les trois inspirés par la figure d'Abraham. Il a relu la figure d'Abraham pour montrer que les trois religions se considèrent comme les fils, les enfants d'Abraham. Et il l'avait fait dans un esprit œcuménique très ouvert, à une époque, ça doit être un livre de 1966 ou 1968, si ma mémoire est bonne, je peux vérifier. Il l'a fait à une époque où on ne parlait pas beaucoup du terrorisme islamiste, etc., où on était beaucoup moins tendu par la violence du djihadisme et de tout ça qu'aujourd'hui. Donc le livre peut paraître avec la distance irénique ou naïf, mais il y a eu des intellectuels français comme Louis Massignon et d'autres qui ont essayé toute leur vie de montrer les valeurs communes à l'islam et au christianisme. J'aime bien cette parole du philosophe français Maurice Clavel, même si ce n'est pas très grand philosophe, qui avait écrit un livre très remarqué en 1968, qui s'appelait tout simplement « Dieu est Dieu au nom de Dieu ». Il l'a plus vendu que le mien.
Nom de Dieu.
Oui, j'aurais dû l'appeler comme ça. J'aurais dû avoir la tignasse de Maurice Clavel aussi, qui est, avoir 50 ans en 1968. Et c'est un livre très bien, un peu marqué, comme ça, sur les bords, dans lequel j'étais lui-même catholique, je crois, mais dans lequel il montre comment on n'a plus le courage de parler de Dieu et d'appeler un chat et de dire que Dieu existe. Et c'est un coup de gueule, c'est plutôt un coup de gueule qu'un livre de théologie, mais c'est un coup de gueule pour. Qu'on ait le courage de parler de Dieu aujourd'hui, etc. Et voilà, bon, mais si Dieu est Dieu, c'est à cause de son titre, si Dieu est Dieu, nom de Dieu, ben, pourquoi est-ce que le Dieu de l'islam et de Mahomet ne serait pas le même que le mien? Qu'est-ce que c'est que ce dieu qui serait seulement le dieu d'une tradition religieuse parmi... vous voyez la brèche que j'en trouve. Vous voyez l'énormité de ce que j'affirme. C'est-à-dire, quelle est la dame qui m'a posé la question sur l'évangile de Jean tout à l'heure? Je ne la vois plus. Vous êtes là, excusez-moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie dans l'évangile de Jean. Oui, c'est Jésus qui dit, selon l'évangéliste Jean, qui est celui des évangiles, qui a la conception la plus haute de la christologie, de la doctrine du Christ. Mais en même temps, on voit bien que si on fait l'exégèse, si on glose sur la phrase « Je suis le chemin », d'abord c'est Jésus qui dit. Mm-hmm. Et puis il dit « Je suis ego eimi » en grec. C'est moi qui suis, c'est le fameux « ego eimi » que l'évangéliste Jean répète dans tout l'évangile, pour dire ça. Jésus parle toujours en « ego eimi », c'est moi qui suis. C'est moi qui suis, c'est moi qui suis. Mais pour Jean, Jean fait de la christologie et non pas de la jésulogie. Jean n'écrit pas l'histoire de Jésus, contrairement aux évangiles synoptiques. Jean écrit l'histoire du Christ ressuscité, le Christ en gloire. C'est ça le sujet de l'évangile de Jean, d'où le prologue, d'où le fameux prologue, au commencement, etc. Donc Jean a une conception, ce qu'on appelle une haute christologie haute. Les spécialistes disent une christologie haute. Jean a une christologie haute. Et donc, si vous entrez dans la logique, si du point de vue de la foi chrétienne, un chrétien devient plus johannique qu'autre chose, vous voyez, on peut être johannique. On peut être johannique, c'est-à-dire à trouver que l'évangile de Jean, qui est certainement du point de vue littéraire, le plus beau et le plus profond des quatre évangiles, mais qui est le plus tardif aussi, du historique, mais ce n'est pas un argument décisif, on peut, mais on sait bien que l'évangile de Jean n'est pas un récit historique. Il n'a pas la même chronologie des faits que les autres évangiles ne pouvaient pas écrire une histoire. Ernest Renan ne pouvait pas écrire sur sa vie de Jésus à partir de l'évangile de Jean. Parce que ça ne marche pas. Vu qu'il était historien, Renan, et qu'il voulait rester seulement historien. Il n'a pas utilisé beaucoup l'évangile de Jean. Ou bien s'il l'a utilisé, je ne m'en souviens pas, s'il l'a utilisé, c'est de manière un petit peu discutable. Parce qu'aujourd'hui, on ne lit pas comme ça l'évangile de Jean. On ne lit pas l'évangile de Jean comme un évangile historique, mais comme un évangile théologique. Hein, qui dit une vérité en profondeur de ce que le christianisme peut vouloir signifier. À l'époque du gnosticisme, de la gnose, et on a beaucoup de grandes discussions pour savoir si Jean est influencé par le gnosticisme. Et s'il répond au gnosticisme dans son écrit, ce qui est tout un courant de pensée que les évangiles synoptiques, plus araméens, plus hébraïques, ne connaissaient pas, ne pouvaient pas connaître. Donc ça, moi, je ne suis pas un spécialiste, c'est Doumsen et Magora qui vous diront ça. Et Jean Ekesli et d'autres, Jean-Daniel Dubois à Paris et d'autres qui vous diront ça beaucoup mieux. Je ne saurais le faire, bien entendu. Articuler, ça veut toujours dire, je prends votre question, madame, articuler, ça veut toujours dire mettre en rapport positif, mais ça veut aussi dire mettre en relation en fonction des différences. En ne gommant pas les conflits entre les conceptions. Et c'est la même chose pour le christianisme et la laïcité, si c'était bien votre deuxième question. C'est-à-dire que la foi chrétienne, la foi chrétienne, c'est quoi? C'est nous. Si nous sommes chrétiens, si vous et moi, je suis chrétien, j'essaye d'être chrétien, je porte la foi chrétienne devant l'espace public, devant le forum public, dans la laïcité, on voit, moi, l'émission de télévision que j'ai vue hier, ou bien je ne sais pas si vous avez vu le film Grâce à Dieu sur l'affaire Barbarin, moi je trouve que c'est un film très, intellectuellement très honnête. Et j'ai beaucoup d'amis catholiques qui le trouvent très bien aussi. Donc je ne dis pas ça par anticatholicisme, je ne suis pas anticatholique du tout. J'essaie juste de dire ce que je pense. Mais ce film est très honnête par rapport à ce qu'on savait au moment où il a fait le film. Ça ne veut pas dire que ça ne remplace pas le procès Barbarin et puis ce que le pape a fait avec ça, etc. C'est un autre débat. Mais le film, il montrait tout ce qu'il faisait bien, c'est qu'il montrait, si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, moi je trouve qu'il mérite discuter au moins, il montrait qu'il y avait trois personnes différentes qui réagissaient par rapport aux abus sexuels dans l'Église catholique. Il y a un catholique pratiquant, c'est trois jeunes hommes. Un, un, un catholique pratiquant et sa femme, et dans un milieu très engagé, qui est ébranlé par ce qui se passe et qui se révolte, qui essaie de réformer l'Église de l'intérieur, un catholique devenu athée et qui se bat pour les droits de l'homme et pour le côté éthique du christianisme, mais pas pour le côté religieux, et qui dit sa révolte aussi, mais d'une autre manière, à partir de la non-foi, alors que le premier parle se situe dans la foi, continue à aller à la messe et à être croyant. Et puis le troisième, c'est le type détruit, la victime détruite par l'abus, mais qui est aussi un catholique. Il y a les trois. Et puis le film, au lieu de choisir entre les trois, non, qui c'est qui a raison, il montre qu'il y a au moins ces trois postures qui peuvent réagir. Dans la laïcité, c'est la même chose par rapport au christianisme. C'est-à-dire, les chrétiens ne sont pas tous les mêmes. Les chrétiens, ce n'est pas un magma de gens qui pensent tous la même chose. Il y a le pluralisme, tout ce que j'ai dit. Les chrétiens, c'est un corps vivant. Presque comme le Concile de Vatican II, c'est le peuple de Dieu, c'est un corps vivant. Hein? Et donc, il y a de la vie, il y a de la circulation, il y a des évêques qui ne peuvent pas la même chose, il y a des théologies. Bon, j'ai fait un jour un débat à Neuchâtel, pardonnez-moi, je deviens vieux, je raconte mes souvenirs, c'est la pub pour mon livre de mémoire qui va paraître. J'étais un jour avec Monseigneur Mamy, l'évêque de Fribourg, le prédécesseur de Morero. Et on parlait de la lettre des évêques sur l'interdiction de l'intercommunion. Moi, j'étais un jeune couple mixte avec ma femme, on était pour l'intercommunion, on trouvait qu'on pouvait prendre l'Eucharistie ensemble, catholique et protestant. Je vous parle des années 70, si ma mémoire est bonne. Il faudrait vérifier la date. Et les évêques de Suisse romande ont fait une lettre. Les évêques de Suisse ont fait une lettre pour interdire l'intercommunion aux catholiques et aux protestants qui le faisaient. Et on a constitué des équipes, un prêtre, un pasteur, des duos qui allions dans les paroisses catholiques, protestants, dans les centres écuméniques, etc. Et un jour, je me suis trouvé à Boudry, un petit village de Neuchâtel, près de Neuchâtel, je me suis trouvé à Boudry avec le conseil catholique de la région. Et Monseigneur Mamy qui était là. Et puis chacun a dû exposer son point de vue. Et à un certain moment donné, Mamy m'a dit, mais monsieur Müller, on voit bien que vous êtes pasteur, on voit bien que vous n'êtes pas catholique. Ah. Il dit, non, monsieur Monseigneur, moi j'ai lu vos théologiens, vous ne les lisez pas. Je lui ai répondu comme ça. J'avais moins de 30 ans. Moi je citais des théologiens catholiques, et lui, il ne les avait pas lus. Alors moi, je me suis permis, je vais citer Carranet, je vais citer Henri de Lubac, vous voyez, des noms. C'est assez glorieux. Mais lui, ça n'intéressait pas la théologie. Moi, j'avais le droit de. Je voulais juste signaler aux catholiques présents. Il y avait aussi des catholiques qui pensaient comme eux, et pas seulement comme l'évêque. Vous voyez, j'entends que c'est pas. Et puis, je suis très ami avec Hans Küng, qui est très critiqué, mais qui a quand même fait des sacrés coups de boutoir pour réformer le catholicisme de l'intérieur, et à qui on doit beaucoup. Les catholiques doivent beaucoup à Hans Küng. Ce grand catholique, qui restait catholique de tout son cœur. Donc, pour la laïcité, c'est un peu la même chose. La foi chrétienne, elle est plurielle, mais l'articulation de la foi chrétienne avec la laïcité, ben c'est que moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans la société française et francophone, à Genève également, on voit la même chose qu'en France, on parle de la laïcité à tort et à travers. J'ai essayé de vous montrer que j'étais tout à fait pour la laïcité. Contre M. Pénard-Ruiz, et ses études très savantes, j'ai dit qu'il fallait parler de laïcité ouverte. Lui, il est tout à fait opposé à cette distinction. Je pense qu'il n'y a pas de laïcité ouverte. Il y a la laïcité de la loi de 1905, et point final. Ou bien on est pour la laïcité de 1905, ou bien on est contre. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui, je pense que interpréter la loi, d'abord, je ne suis pas français, donc bon, 1905, c'est quand même pas une date éternelle, c'est pas obligé de penser comme 1905, il n'y a rien qui nous y oblige, et puis les lois, ça peut changer, mais nous en Suisse, quand on change une loi, on fait un référendum d'initiative citoyenne, et puis ça prend 5 ans, voilà, je vous rappelle qu'en 1981, qui c'est qui a dit qu'il fallait introduire le référendum à la Suisse. Vous savez qui c'est? Vous vous souvenez? Non, c'est pas Mitterrand, c'est qui? Tout près de Mitterrand. C'est Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, il a annoncé comme Premier ministre, dans son premier discours, moi je m'en souviens très bien, qu'il voulait introduire le référendum à la Suisse dans la Constitution française. Vous voyez que l'histoire est longue. Le temps est long. Il faut donner du temps au temps. Alors, donc, permettez aux petits Suisses que je suis d'être un peu à seul. Est-ce que j'ai répondu à la question de madame? Un peu?
Oui, parce que moi j'avais compris que vous disiez ça comme si c'était une évidence aux articulations.
Non, pas du tout.
Ça me paraissait moins évident que ça, alors.
Ah, vous avez raison.
Voilà.
On est d'accord. Oui. C'est pas du tout évident. C'est le problème quand on n'a pas les gros mots qui disent une expression de ronflante, c'est que il faut vous dire une chose, c'est une règle fondamentale de l'université. Il ne faut jamais croire un prof d'université sans l'avoir vérifié par vous-même. Il y a un prof de toute école, que ce soit. Je ne suis pas élitiste, je ne pense pas qu'il y ait que l'université. De n'importe quelle école, domaine, il faut l'écouter, il faut travailler, il faut respecter ses compétences, mais il faut penser par soi-même. Nous sommes là pour que vous pensiez par vous-même, pas pour que vous pensiez comme nous. Ah oui, je suis sorti du micro, hein.
Non,
c'est pour reposer, hein. Ah, j'ai vu qu'il y en a qui lui a appelé le doigt, donc on va reprendre les petites trois questions. Marie-Christine.
Oui, le pluralisme est quelque chose d'inhérent au féminisme, c'est d'ailleurs ce qui permet les rencontres de féministes. Mais même à l'intérieur de chacune des traditions, chacun sait bien qu'il y a toute une divergence de point de vue. Moi, chez les protestants, c'est évident. De toute façon, c'est une recherche d'unité dans la différence. Mais chez les autres aussi, et puis, de toute façon, c'est déjà dans l'ADN au niveau de tous les textes. Et des auteurs anciens. Mais bon, la recherche d'unité et d'absolu de la bioéthique, ça me paraît beaucoup moins évident. Où est-ce que la bioéthique recherche un absolu? Comment recherche-t-elle un absolu?
Non. J'ai demandé une faveur. Je vais pouvoir répondre aux questions l'une après l'autre. J'ai peu dormi l'année passée. Je ne voudrais pas m'endormir devant vous. Ce n'est pas à cause de vous que je m'endors, c'est à cause de moi. Non, ça va. Non, mais ça va. Si je m'endors, tu me retiens. J'ai beaucoup de plaisir à être avec vous, et donc ça me retient réveillé, ça serait bien. Oui, parce que la première partie de ce que tu as dit n'était en effet pas une question, mais une confirmation de ce que j'avais dit, et puis ça ratifiait les grandes thèses de Kaiserman, qui est celui qui a vraiment montré ça le mieux, pour ce qui est dans le Nouveau Testament. Mais, d'ailleurs, la bioéthique, ta question, ça fait rebondir ce qu'a dit madame, ou les questions sur l'antérieur, sur l'éthique de la discussion aussi, de monsieur. C'est-à-dire que je ne voulais pas dire, je ne me souviens plus des formules que j'ai employées exactement, puisque j'ai improvisé, je n'avais pas de texte, mais je ne voulais pas dire que la bioéthique devait parvenir à un absolu, puis qu'à partir de là, elle pourrait l'imposer à qui que ce soit, mais je voulais dire que De par la simple existence du comité national d'éthique ou d'autres choses, je pensais bien sûr aussi à votre grand débat, mais à d'autres choses, l'existence des débats qui existent, sur tous les sujets qui peuvent exister, parce que comme vous savez, nous en Suisse, on vote notre référendum, on vote sur le prix du lait, on vote sur la hauteur des cloches, on vote sur si on doit enlever les cornes aux vaches. Puis on vote 4 fois par année, puis ça prend 3 ans d'élaboration. Donc c'est un processus métaphysique, très compliqué. Moi, j'adore la Suisse, on a une vraie démocratie dans un pays. Mais c'est l'homme. Si nos enfants ont un ras-le-bol, ils vont voir ailleurs, parce que c'est plus facile quand même d'aller aux Champs-Élysées, c'est plus rapide. Et donc la bioéthique, il y a aussi ce côté, ce que disait madame sur le côté évidence, ce que vous auriez pu comprendre comme une évidence des articulations, et que nous on a des accords que ce n'était pas le cas. La bioéthique, c'est d'ailleurs l'expression, peut-être les lois de bioéthique que vous avez dans le système législatif français qui portent ambiguïté. Je ne connais pas dans le détail ces lois, je ne les ai pas étudiées comme je devrais. Il faudrait les reprendre l'une après l'autre, de manière sérieuse et historique. Mais je veux dire, l'idée qu'il y aurait des lois de bioéthique, c'est pour ça que j'ai fait la comparaison tout à l'heure avec les droits de l'homme. Or, les lois de bioéthique ne sont pas sur le même plan que les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont au niveau supérieur aux lois de bioéthique. Pas seulement parce que les lois de bioéthique sont seulement françaises, elles ne sont pas universelles. Hein, donc c'est... Mais évidemment que l'OMS ou d'autres organisations, ou la déclaration d'Helsinki, ou d'autres documents, moi j'ai fait partie pendant pas mal d'années de commissions d'éthique au centre universitaire hospitalier vaudois, le CHUV, ou ailleurs, où tous les thésards de médecine, comme c'est le cas aussi en France, je crois, devaient, quand ils présentaient leur projet de thèse avec leur prof, avec leur directeur, présenter un protocole de recherche, comme on dit dans le jargon, un protocole de recherche prouvant que leur recherche était licite du point de vue éthique. Hein? Parce que, que ce soit sur les animaux, d'ailleurs, ou sur les hommes. Les recherches des animaux, les recherches sur les hommes. Et ils mettaient toujours en annexe différents documents éthiques, puisqu'ils passaient devant notre commission d'éthique à nous, et on n'était pas une commission de la recherche, on était une commission d'éthique, raison pour laquelle j'y figurais, parce que j'aurais été totalement incompétent dans une commission d'éthique de la recherche en médecine. Je n'avais pas de raison d'y siéger. Tandis que dans une commission d'éthique, j'étais le laïc de service. Celui qui n'y connaissait rien. Alors, il la voix de temps en temps. J'étais la femme de service. La femme, l'alibi qu'on utilise parfois comme femme de service. Moi, c'était le prof d'éthique. Ça ne faisait pas de mal, il n'y connaissait rien, etc. On voit bien que. Or, ils mettaient souvent à la fin, je disais toujours, il faut se méfier, mais il y a plus de documents éthiques à la fin du protocole que de pages du protocole. Parce que vous pouvez mettre 15 documents d'éthique à la fin, mais en tenir aucun compte dans votre protocole. C'est-à-dire que vous pouvez faire un protocole très fourni, avec une petite phrase d'éthique, c'est un très bon protocole d'éthique. Mais ils mettaient toute la déclaration pour être couvert par la déclaration, ou par les lois de bioéthique, ou par la loi. Souvent la loi, ça c'est la distinction entre la loi entre le droit et l'éthique, qu'il faut toujours faire, la distinction non pas l'opposition, c'est que la loi ne doit pas nous empêcher de penser. Y compris la loi Veil. La loi sur l'avortement, elle ne doit pas nous empêcher de penser. Alors moi je me suis battu en 2002 en Suisse pour décriminaliser l'avortement, avec toutes les féministes de Suisse. J'ai présenté le rapport à la Fédération des Églises protestantes de la Suisse contre la criminalisation de l'avortement, et j'ai toujours dit que ceux qui étaient contre l'avortement devaient continuer à pouvoir dire qu'ils étaient contre. C'est pas parce que j'étais pas de leur avis, qu'ils avaient. Par contre, ils n'avaient pas le droit d'être directeur d'un hôpital ou d'une clinique gynécologique s'ils étaient contre. Ils n'avaient pas le droit. Ensuite, c'est comme ça. On peut travailler dans une infirmière peut travailler dans un hôpital où l'avortement en Valais ou à Fribourg. Hein. Surtout à Fribourg et Valais, c'est un pays un peu rétrograde. Une femme peut très bien. Tu m'en veux pas. Hein. Ça va. Non. Tu vois, on n'est pas enregistré là. On est toujours enregistré. Ouais. Alors, il ne faut pas mettre sur Facebook, hein, s'il vous plaît. Et alors, quelqu'un a compris que j'avais de l'humour. Ça va bien. Donc le droit ou la loi n'empêche pas de penser autrement que la loi, puisqu'on peut encore se battre pour changer la loi, c'est pas interdit. Je ne suis pas pour, dans le cas de l'IVG, je ne suis pas du tout pour qu'on revienne en arrière sur ces lois, ni en Suisse, ni en France, ni ailleurs. Bien sûr que non. Mais quelqu'un peut toujours être choqué par cette loi et en conscience ne pas être d'accord, y compris l'Église catholique quand ils le pensent. C'est pas interdit. Vous voyez, ça, c'est pas. Il n'y a pas de bien-pensance. On n'est pas obligé de penser comme tout le monde. À condition qu'on respecte les lois, qu'on respecte le droit, qu'on ne fasse pas de violence, qu'on soit dans l'absence de violence. Mais la liberté de penser existe, elle doit être défendue, y compris pour nos adversaires. C'est la fameuse phrase de Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au bout que vous puissiez le dire. Donc là, c'est très important. Et donc la bioéthique, ce que je veux dire, c'est que la bioéthique, elle ne peut pas, elle voudrait souvent se satisfaire d'un compromis, voire d'une compromission pratique, en disant, on vote à la fin, combien de fois on a voté dans les commissions d'éthique ou dans des conseils d'éthique, à la fin on vote, puis il y a un minoritaire qui dit non, ok, alors c'est la loi de bioéthique qui a gagné, et on ne revient plus, ça devient un absolu. Ben moi je pense que les lois de bioéthique ne sont pas un absolu, je pense même, au risque de vous choquer, que les droits de l'homme tels qu'ils existent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ne sont pas le dernier mot de l'être humain sur les droits de l'homme. Je pense qu'on peut encore les améliorer. Etc. Et là, c'est tout le problème du dialogue avec les autres conceptions des droits de l'homme. Mais ça ne veut pas dire que je mettrais les droits musulmans de l'homme à la place des droits de l'homme. Pas du tout. Parce qu'il faut qu'ils soient universels. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. La bioéthique par l'OMS ou par la déclaration d'Helsinki se veut avec un canon de vérité mondiale, internationale, ce que Hans Küng appelle dans ses écrits l'éthique planétaire, ce qui en allemand n'est pas planétaire, mais Welt, n'est pas l'éthique, mais l'éthos, Weltethos auf Deutsch, hein, c'est-à-dire le comportement mondial, mondialement compatible. C'est ce que pense Hans Küng dans ses écrits, parce qu'il a constaté que les religions. Küng est un de ceux qui, en amateur éclairé, a fait le mieux des choses puisqu'il a réuni à Chicago la fameuse conférence sur l'éthique planétaire. Et c'est parce qu'il pensait que les religions, toutes seules, laissées à elles-mêmes, je n'ai pas souligné cet aspect ce soir, mais que les religions laissées à elles-mêmes poussaient à la violence. Ce que beaucoup de gens pensent aussi naturellement. Et pas seulement l'islam. Michel Onfray l'écrit par tous ses ports. Hein. Même si je pense que ce n'est pas le meilleur auteur, le meilleur philosophe qui soit, mais il a le droit de penser comme il pense. Bon. Les religions, c'est vrai, livrées à elles-mêmes, peuvent mener à la violence, ou à la violence entre elles. On a tous les exemples des guerres de religion et de l'Irlande et de ce qui se passe, en Birmanie et d'autres choses etc., qui montrent que la violence et l'attente peut exploser. À tout moment, et le Küng pense qu'une éthique planétaire doit être basée sur l'humanum, sur l'humain, et non pas sur le divin. Il le pense comme théologien catholique, hein, mais en se référant à la tradition catholique de la loi naturelle, c'est-à-dire de manière très, très catholique sur le fond. Beaucoup de protestants pensent que la pensée de Hans Küng sur l'éthique planétaire est beaucoup plus catholique pour être vraie. Elle n'est pas assez écuménique, elle est trop catholique. Donc on reproche à Küng d'être trop catholique. C'est assez rigolo. On reconnaît un peu l'histoire du personnage. Mais lui, il s'est battu avec une grande rigueur intellectuelle pour reconnaître la centralité de l'humain par-dessus toutes les absolus qui risquaient de mener à la violence. Et c'est une pensée très puissante. Qui corrige, si Küng avait été là, il m'aurait certainement corrigé sur plusieurs points.